faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Il semblerait que le financement de la transition écologique soit un problème, comme si nous serions capables de financer la perte de biodiversité, la pollution des eaux et de la terre, etc., mais que nous serions par contre incapables de financer notre bien, ou comme si nous aurions besoin de détruire l'environnement pour financer les hôpitaux, l'éducation, notre bien-être. Dit comme cela, ça paraît un peu étrange, non ? Au-delà de la rhétorique, ou plutôt du changement de perspective, on peut à juste titre se demander ce qu'est au fond l'argent, la monnaie, les pépettes, le blé, les ronds, les sous, la thune, le flouze, le fric, l'oseille, le pognon. On l'aime tellement que la liste de ces petits noms est sans fin. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'inégalité, on pense en premier lieu à l'argent. Quand certains n'en ont pas, d'autres l'accumulent sans limite ou presque, y assoient leur pouvoir. Mais n'est-ce pas là un détournement de ce qu'est fait l'argent, la monnaie, de ce pourquoi ils ont été créés ? Nous verrons ensemble qu'en fait, ce n'est pas le cas. Commençons par un peu d'histoire. L'homme étant un animal social, nous avons procédé à des échanges depuis la nuit des temps. Alors peut-être qu'au sein de clans, il n'y avait pas de notion de créance, de devoir, de redevabilité, etc. Mais une économie du don, chacun se trouvant une place utile dans le groupe. On estime que les premières monnaies, dites paléo-monnaies, sont apparues sous forme d'objets plus ou moins inutiles, facilement transportables, souvent des produits naturels, comme des dents de requin, des coquillages, des pierres. On a pu aussi mettre des outils en réserve pour un usage ultérieur, puis des denrées périssables et des produits artisanaux. La monnaie battue apparaît au 7e siècle avant Jésus-Christ dans des cités d'Asie mineure. Le billet, initialement une reconnaissance de dette, apparaît autour du 11e siècle en Chine, puis au 12e siècle en Europe. En France, le chèque apparaît au milieu du 19e siècle, puis la carte bancaire à partir du milieu du 20e siècle, en papier, puis en plastique, puis avec une bande magnétique pour finir avec une puce quand elle n'est pas dématérialisée. Depuis la fin du XXe siècle, nous assistons à l'émergence des crypto-monnaies. En France, nous avons connu une multitude de monnaies, plus ou moins éphémères, plus ou moins locales ou globalisées. Les dernières en date sont le franc germinal en 1803, le franc Poincaré, le nouveau franc, le franc et enfin l'euro depuis 2002. Une monnaie qui nous permet d'échanger dans les 20 pays de la zone euro. En parallèle, nous pouvons accéder à environ 80 monnaies locales sur le sol métropolitain. Mais de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que la monnaie ? À quoi sert-elle ? De toute évidence, elle sert au commerce, aux échanges. Si vous faites du troc, vous avez du blé, vous l'échangez contre du pain avec le boulanger, c'est simple. Par contre, le boulanger ne va pas vous fournir toute sa fournée faite à partir de votre blé. Et le médecin, lui, il veut du pain et pas du blé. Alors comment faire pour aller chez le médecin en ayant du blé ? Le troc est un échange instantané. Il serait difficile de se retrouver entre le boulanger, vous et le médecin, pour convenir d'un échange entre vous trois, de faire coïncider vos désirs. Alors si en plus vous avez besoin d'un peu de beurre pour mettre sur le pain, la situation se complique encore plus. Pour simplifier, la complexité est proportionnelle au carré du nombre de biens échangés. L'argent va permettre de faire ces échanges avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup moins de contraintes dans les échanges. En fait, on donne à la monnaie trois fonctions principales. C'est une unité de compte pour compter sur un même plan du blé, du pain et des soins. C'est un moyen de règlement pour régler votre pain. C'est une réserve de valeur pour aller chez le médecin 6 mois après avoir vendu votre blé. La fonction essentielle et primaire de la monnaie, c'est bien ça. C'est de faciliter les échanges, de faciliter l'économie. La monnaie, l'argent, ce n'est certainement pas pour que certains puissent l'entasser et devenir ultra riches pendant que d'autres soient extrêmement pauvres. Ce n'est pas pour que 10% de la population s'accapare 80% des richesses à eux seuls, tandis qu'une moitié de la population ne possède que 2% des richesses. Mais maintenant que nous avons vu ce à quoi elle peut servir, revenons-en sur l'histoire primitive de la monnaie pour évoquer un autre usage. Et avant tout, revenons sur une idée reçue, le troc. Le troc a été rarement utilisé par les sociétés. En fait, le troc, en tant qu'ancêtre de la monnaie, c'est un mythe largement introduit au XVIIIe siècle par l'économiste Adam Smith, considéré comme l'un des pères des sciences économiques modernes, et ce mythe a ensuite été propagé par les économistes libéraux. Et contrairement aux idées reçues, il semblerait que la monnaie n'ait pas été introduite pour faciliter les échanges longue distance, des échanges qui pourtant ont bien lieu à cette époque. Les monnaies, au contraire, étaient très localisées. Mais pourquoi a-t-on disséminé cette croyance ? Peut-être pour mieux faire accepter une certaine forme d'économie, d'organisation, en faisant oublier que bon nombre de sociétés ont eu vraisemblablement recours à d'autres formes d'économie, comme le don ou la dette. Des formes d'économie qui ont un avantage indéniable sur l'actuel. Elles incitent à plus de rapports cordiaux. Iriez-vous nuire ou trucider celui qui vous doit quelque chose ? Ce serait le meilleur moyen qui ne vous rende plus jamais service. Alors qu'avec l'argent, et bien vous récupérez l'argent. D'ailleurs, selon la théorie sur laquelle bon nombre d'historiens numismatiques s'accordent, la monnaie serait plutôt créée en période de tension et serait liée à l'impôt. Pourquoi ? Parce que cette géniale combinaison, monnaie-impôt, permet d'asseoir la puissance de celui qui distribue la monnaie. Un exemple, vous devez nourrir vos mercenaires qui vous aident à asseoir votre pouvoir. Si c'est pour cette raison que vous avez des mercenaires, il y a de fortes chances que la population que vous avez assouvie soit assez peu encline à vous donner à manger, ni à vous, ni à vos mercenaires. Et si vous ne nourrissez pas vos mercenaires, alors il y a peu de chances que vous gardiez le pouvoir longtemps. Alors, si vous distribuez des pièces de monnaie à vos mercenaires pour les payer, pour qu'ils puissent manger, vous avez toujours un souci. Les commerçants vont bien rigoler en voyant vos pièces qui, pour eux, n'ont aucun intérêt. Par contre, si vous assujettissez les commerçants à vous payer un impôt sous forme de pièces de monnaie et que vous confiez la collecte de l'impôt à vos mercenaires, alors les commerçants verront un intérêt à accepter les pièces pour être payés. Et en tant que batteur de monnaie, collecteur d'impôts, vous obtenez du pouvoir sur la cité que vous avez conquise. Au-delà de la facilité des échanges, le commerce, la monnaie, est donc aussi une manière d'assujettir. Ce que font les États pour leurs administrés, ce que font massivement les États-Unis, puis maintenant la Chine, pour asseoir leur puissance sur bon nombre de pays et d'entreprises en imposant l'usage de leur monnaie, le dollar ou le yen. Cela étant dit, cet argent, il vient d'où ? Qu'est-ce qu'il cache ? Rien, du vide, du vent. Le site du ministère de l'économie explique cela très clairement. La banque centrale imprime des billets et bat la monnaie. Mais cela n'a pas d'incidence particulière sur l'économie. En effet, d'une part, cette monnaie sonnante et trébuchante ne constitue qu'une part infime de l'économie virtuelle. L'économie virtuelle, c'est celle qui est sur votre compte avec plus ou moins de zéros que vous pouvez consulter en regardant des chiffres sur votre relevé électronique ou papier. D'autre part, l'impression de monnaie ou la frappe de pièces n'a pas d'incidence sur le volume de l'économie. Parce que quand la banque vous donne 100 euros au distributeur, votre compte est débité de 100 euros. Ce qui fait que le euro en billet papier remplace des euros virtuels sur votre compte. Plus 100 euros en circulation, moins 100 euros sur votre compte, plus 100 moins 100 égale 0. En fait, ce sont les banques qui créent l'argent. Et oui, BNP Paribas, le CIC, le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, ils ont reçu le droit par l'État de créer de la monnaie. Quand vous demandez un prêt de 50 000 euros pour acheter votre maison, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui se balade avec un lingot d'un coffre à l'autre. Vous n'asséchez pas non plus les comptes de votre banquier, vous ne siphonnez pas plus l'épargne de votre voisin. En fait, votre banque va créer 50 000 euros. Ce n'est pas une blague, c'est une simple ligne d'écriture. Et quand vous remboursez, la banque va détruire les zéros que vous lui donnez. Les 50 000 euros que vous avez empruntés vont aller à votre vendeur, sur son compte. On dit que les crédits font les dépôts. Si cela permet à votre voisin de rembourser un prêt, l'argent est détruit. Sinon, il l'utilise et cela finira par aller sur le compte d'une personne ou d'une entreprise qui rembourse un prêt. L'argent est détruit. Rappelez-vous, l'argent, c'est fait pour faciliter le fonctionnement de l'économie, pour faciliter les échanges. Et visiblement, ce mécanisme qui crée de l'argent en fonction du besoin et le détruit quand il n'y en a plus besoin, ce mécanisme répond exactement à l'objectif initial. Mais si je dépose de l'argent à la banque, elle n'en fait rien ? Si, elle va l'utiliser pour justifier les prêts qu'elle octroie ou pour justifier ses investissements qu'elle fera en créant de l'argent. En effet, pour avoir le droit de créer de l'argent pour le compte de l'État, il faut quand même être validé par l'État et donc respecter des règles. Parmi ces règles, il faut avoir un minimum de fonds par rapport à l'argent fictif que l'on émet. Comme nous venons de le voir, l'argent, ça n'a pas d'odeur puisque une bonne partie n'existe simplement pas. C'est un concept dont la valeur n'a de sens que ce qu'on veut bien lui donner. En Europe, tous les Européens croient qu'un euro vaut bien un morceau de pain. Allez au fin fond de l'Inde avec votre euro. Les personnes que vous rencontrerez ne vous donneront probablement rien pour votre bel euro. Si vous empochez avec plaisir un bout de papier avec un chiffre et une signature sous le logo d'un établissement de crédit, un papier que l'on nomme « chèque », c'est parce que justement vous accordez une certaine crédibilité à la personne qui vous donne le chèque, à l'établissement bancaire qu'il désigne. Tout n'est qu'une histoire de confiance. L'argent n'a de valeur que la confiance que l'on donne à celui qui l'émet. Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez les croissants décroissants. Aujourd'hui, nous parlons de l'argent. Dans la première partie de l'émission, nous disions que l'argent est fait pour faciliter les échanges et non pour enrichir les riches. C'est ce qui semble être le cas avec le mécanisme de prêt. Pourtant, de nos jours, il semble que ce ne soit pas vraiment le cas. Par exemple, un bon journal est un journal qui parle de la météo, mais surtout, il faut suivre le cours de la bourse. Le marché d'actions fait la pluie et le beau temps. Pourtant, il ne représente qu'une partie de l'économie. Si la capitalisation boursière des 40 entreprises du CAC 40 pèse environ 2700 milliards d'euros, le chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 ne représente qu'environ un tiers du chiffre d'affaires des entreprises françaises, d'après l'INSEE, quand on compte les 3 millions de micro-entreprises, les 100 000 PME et les 5 000 entreprises de taille intermédiaire. Comme si l'activité de 40 entreprises était représentative de la vie d'un pays, d'un continent, du monde. On aurait pu s'intéresser au nombre de conférences, au nombre de spectacles lyriques ou au nombre de fleurs qui ont éclos dans la journée. Mais non, on préfère s'arrêter à ces 40 entreprises qui façonnent sans relâche les malheurs de notre monde. Que ce soit dans l'énergie, la construction, la mode ou bien d'autres industries. Celles qui dégraissent, qui polluent, qui incitent aux court-termistes à coups de stock options, etc. Mais en fait, de quoi parle-t-on et comment fonctionne la bourse? Tout d'abord, ne nous cachons pas. C'est un outil purement spéculatif. Une fois le capital initial créé lors de l'ouverture en bourse, pour se financer, les entreprises passent par l'emprunt. Une action, c'est un titre de propriété, ce n'est pas un emprunt. En fonction de l'humeur de la foule, la valeur de l'entreprise fluctue, en positif ou en négatif. Il suffit que la foule s'auto-convainque que la nouvelle lune est un signe de mauvaise situation pour qu'une première personne vende ses actions, ce qui induit une baisse de prix des actions, qui induit un désir de vente des suivants qui préfèrent vendre un peu moins cher, mais vendre quand même, que vendre beaucoup moins cher plus tard. Au contraire, si un individu de la masse d'actionnaires arrive à convaincre que les autres que la nouvelle lune est un élément bénéfique pour l'entreprise, alors il rachète un peu plus cher des parts et les actions partent à la hausse. Comme on ne peut pas prédire à l'avance le mouvement de foule, c'est un peu à qui sera le premier à agir dans la direction qui viendra. Alors soit on triche, on sait à l'avance les raisons des fluctuations, c'est le délit d'initié, soit c'est de la loterie. En d'autres termes, c'est un peu le mécanisme d'une pyramide de Ponzi. Le dernier joueur qui y a cru y perd. Mais comment est calculé le prix d'une action? C'est la loi de l'offre et de la demande. On a un certain nombre de vendeurs et d'acheteurs qui se positionnent. Chacun indique quelle somme il est prêt à mettre sur la table pour échanger une action. Les vendeurs indiquent à quel prix ils acceptent de vendre. Les acheteurs indiquent à quel prix ils acceptent d'acheter. Pour l'acheteur, deux possibilités. Indiquer un tarif fixe, 100 euros par exemple, ou indiquer s'il veut à tout prix échanger une action. La cotation sera alors évaluée à la valeur qui permet d'effectuer le plus de transactions entre vendeur et acheteur. Ceux qui ont indiqué vouloir acheter à tout prix sont servis en premier. S'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de transaction. On connaît la bourse surtout pour ses actions, mais on peut y acheter un peu tout et n'importe quoi. On peut acheter des produits financiers qui vont fluctuer à l'inverse des actions. Quand l'action monte, le produit financier baisse. On peut acheter des dollars à l'avance pour se couvrir contre les fluctuations du dollar. Bref, on peut acheter des assurances contre la volatilité d'un marché sur lequel on joue en espérant qu'il soit volatile, pour mieux spéculer. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais comme nous le disions, une action, c'est un titre de propriété. Mis à part lors de l'introduction en bourse, cela ne permet pas à l'entreprise de se financer. Cela sert surtout à spéculer et se donner une bonne image. Une bonne image pour attirer des financements qui peuvent venir au travers d'obligations. Les obligations sont des prêts faits par l'entreprise. Mais au lieu de le faire auprès d'un établissement bancaire, il s'agit de le découper en petites parts et de faire auprès de qui voudra. Celui qui octroie le prêt reçoit régulièrement des intérêts, puis à la fin de l'échéance, il récupère sa mise. La bourse permet à chacun de s'échanger les parts du prêt, en espérant la vendre plus cher plus tard. En fonction de l'humeur du marché, ce produit va lui aussi fluctuer, une autre sorte de spéculation. Mais là aussi, N n'alimente la capacité des entreprises à investir que au lancement de l'obligation. Mais d'où vient cet argent que l'on met en action, en obligation ? De nos économies, qui elles-mêmes viennent de prêts. On monopolise donc de l'argent pour spéculer et non pour faciliter les échanges. Et c'est neutre. Ceux qui émettent de l'argent sont égaux à ceux qui en retirent. Une fois introduit en bourse, la valeur des actions ou des obligations fluctue au gré des achats et des ventes, au gré de l'humeur du marché, au gré de l'interprétation de la foule, du bien-être économique de l'entreprise et du monde. Certains y perdent, certains y gagnent. Mais l'entreprise, ça ne lui change rien du tout en soi. Elle a toujours le même nombre d'actions. Elle a déjà eu son prêt, elle doit toujours les mêmes intérêts. Ce sont juste des gens qui se prennent les uns les autres de l'argent. Et au final, on se retrouve avec des ultra-riches, une sorte de voie sans issue où s'accumulent des sommes astronomiques. Ces ultra-riches qui ensuite en dilapident allègrement une partie infime. Quand on a 200 milliards de dollars, difficile finalement de les dépenser en achetant des avions d'affaires à 100 millions seulement. D'autant plus difficile que la fortune ne cesse de s'accroître en même temps. Revenons-en à nos moutons. Quand on se demande avec quel argent on va bien pouvoir faire la transition écologique, on parle d'acheter des pelles, des pioches, des râteaux, des semences paysannes, des bottes de paille pour l'isolation et des formations pour changer les métiers. Certes, la transition, cela peut coûter cher, car si tout le monde a bien un smartphone, tout le monde n'a pas un râteau pour vivre sa nouvelle vie sobre et heureuse. Mais globalement, les limites planétaires nous font aller vers moins, donc moins de besoins financiers aussi. D'autre part, il ne faut pas oublier les externalités négatives de l'économie d'aujourd'hui. Le coût du business as usual. Quand l'eau n'est plus potable à cause des PFAS, des pesticides, des métaux lourds, cela coûte. Et pas seulement qu'un peu. Quand les sols agricoles sont morts sous les joues de l'agro-industrie, cela coûte et pas qu'un peu. Quand les produits chimiques entraînent des chutes de la reproduction, quand on a attaqué les stocks de poissons, quand on doit réintroduire des espèces disparues, quand on doit dépolluer l'environnement du plastique, quand on doit faire face à des phénomènes météo violents de plus en plus fréquents, cela coûte et pas qu'un peu. Continuer sans changer, cela engendre des coûts exorbitants, en plus des complications sociales et sanitaires. D'après Novetic, de la Caisse des dépôts et consignations, en 2023, 6,5 milliards d'euros ont été déboursés par les assureurs en France pour pallier aux catastrophes naturelles. Bien plus que la moyenne des 3,7 milliards sur les 10 années précédentes. 300 milliards, c'est ce que coûte à l'Union européenne chaque année la pollution de l'air. Sans compter les 200 000 morts prématurées annuelles. Et si ça coûtait vraiment cher ? Mais du coup, est-ce que financer la transition coûte cher ? De ce que l'on a vu, en fait, la question n'a pas de sens. Aujourd'hui, on crée de la monnaie pour faciliter les échanges sur l'économie climaticide. On pourrait très bien créer de l'argent pour alimenter une économie respectueuse de l'environnement, des activités sociales aux activités agricoles, en passant par l'éducation et la culture. Si l'on veut rester sur les mêmes règles de fonctionnement de l'économie monétaire qu'aujourd'hui, en gros, on rembourse les dettes, il suffit de faire en sorte de définir des coûts, mais aussi des valeurs à ces éléments. Je demande à la banque 1000 euros pour enseigner. Elle crée cet argent, l'instituteur est payé, il utilise sa paie pour manger, l'agriculteur utilise cet argent pour rembourser le prêt qu'il a fait pour acheter une formation à la permaculture et pour acheter des chevaux de trait pour moins compacter la terre qu'il travaille. La banque détruit cette monnaie, plus 1000, moins 1000, l'argent a servi l'économie. Celle qui fait manger, celle qui fait grandir, pas celle qui élargit quelques poches et condamne chacun à manger 5 grammes de plastique par semaine. C'est QFD, il n'y a pas de problème d'argent, juste un problème de volonté pour donner de la valeur au métier auquel on en a retiré. Juste un problème de volonté pour retirer de la valeur des poches des copains d'école ou des copains de dîner mondain. Ces gens qui compliquent la vie de tous en faisant croire qu'il faut avoir un sac Louis Vuitton, faire du ski ou croître le nombre de déchets sur Terre. Ces mêmes gens qui font croire que l'éducation ça coûte cher. Peut-être pour mieux nous expliquer pourquoi nous devrions travailler plus pour devenir des moins que rien. L'argent c'est justement fait pour soutenir, pour faciliter les échanges. Reste à définir quels échanges on veut valoriser. Ceux qui tuent le climat, la biodiversité ou ceux qui créent la solidarité, ceux qui rendent les gens heureux. C'est un choix. Pour résumer. L'argent permet de faciliter les échanges, mais aussi d'assujettir ceux qui l'utilisent. L'argent n'a pas d'odeur, c'est un concept qui n'a pas de fondement physique. On peut le créer et le détruire à volonté suivant les règles que l'on s'impose. On peut donc financer la transition écologique avec une monnaie, quel que soit son nom, à partir du moment où on définit les règles d'utilisation, le domaine d'utilisation ou il peut être utilisé et les actions qu'il permet de rétribuer. Par exemple, on peut créer un marché parallèle en points de bonne action qui valorise les bonnes actions. Ah, pardon, ça c'est sur le principe. Il se trouve que l'État impose que toute monnaie locale soit reliée aux euros, ce qui implique que les transactions effectuées en monnaie locale restent soumises à la législation fiscale, ce qui rappelle étrangement le premier point, l'argent permet de faciliter les échanges mais aussi d'assujettir ceux qui l'utilisent. Pour poursuivre sur le thème de l'économie, vous pouvez écouter les excellents podcasts de Lian Nicolini et Yann Dahl. L'économie, en fait, c'est cool. On veut du green. Rubrique greenwashing. La palme de ce début d'année revient à notre présidente de région d'Occitanie qui, sur un post du réseau social LinkedIn, publie, ouvrons les guillemets, « La mobilité est l'un de nos besoins fondamentaux et mon ambition est d'offrir à chacun la possibilité de se déplacer librement. Pour être au rendez-vous face à l'urgence sociale et climatique, la priorité doit être donnée aux mobilités collectives et décarbonées. » Fin de la citation. C'est quand même fort de café quand on sait que Madame Delga défend sans faille la construction de l'A69 quand elle finance les projets autoproclamés mais impossibles d'avions verts et que dans le même temps, la région Occitanie prévoit la suppression d'une voie de TER qui dessert le nord-est de Toulouse, donc Castres et Mazamet, en concurrence de l'A69, mais aussi Villefranche, Figeac, Aurillac. Il fallait quand même oser.
N'écoutons pas les Khmer verts et les prédicateurs à lampe à huile.
T'as lu Le Monde, Le Figaro?
Ouais.
T'as vu l'équipe, t'as vu le métro. Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Le 9 avril, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un verdict historique en précisant le spectre d'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 8 intitulé « Droit au respect de la vie privée et familiale », cet article stipule « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La Cour dit que l'article 8 de la Convention consacre un droit à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. La Cour conclut que la Confédération suisse a manqué aux obligations que la Convention lui imposait relativement au changement climatique. C'est déjà ça, un grand pas juridique. Après, faut-il encore que les États ne s'assoient pas sur le droit ? C'était Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.